Merci un mot-clé pour ce 39 premier
chapitre.
C'est l'orgueil. L'orgueil des problèmes de base. On a vu que beaucoup de nations, toutes les nations, et même le roi Ézéchias, ont présenté une forme d'orgueil. Parce que l'orgueil est une forme d'incrédulité. L'homme pense pouvoir se passer de Dieu. Et il veut prendre un peu la place du Créateur. Et il veut prendre un peu la place du Créateur. On a vu quand le frère Jacques a parlé de Satan. Il est parlé de lui dans le chapitre 14 d'Ésaïe. Et c'est l'orgueil qui a précipité celui qui est appelé Lucifer. Il a été rejeté par Dieu, éloigné par Dieu. Et maintenant, on va aborder le chapitre 40 à
66.
C'est la troisième partie. Et vraiment là, dans ce chapitre, il y a une annonce de la bonne nouvelle. C'est du chapitre dans lequel on peut trouver beaucoup d'encouragement. Donc c'est le livre des consolations. Et aujourd'hui, on va voir plus en détail le chapitre 40. Parce qu'il montre l'esprit qui règne dans ces chapitres suivants. Où Dieu commence par dire, consoler mon peuple. Et tous ces chapitres concernent une période qui sera postérieure, qui viendra plus tard
qu'Ésaïe.
C'est des prophéties qui concernent l'époque babylonienne. Où la puissance qui allait régner après
Ésaïe.
C'était la puissance de Babylone, une ville dont on va parler plus tard.
Mais
les prophéties vont beaucoup plus loin que cette période. Ça concerne déjà l'éternité, la gloire future.
Et
alors je vous propose d'ouvrir votre Bible au chapitre 40 d'Ésaïe. Et dans les versets 1 à 11, on voit qu'il y a quatre différentes voix qui crient. Alors la première voix qu'on entend, c'est Dieu. Et c'est le verset 1.
Abutujimuvesa
C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit.
Et il est
en perspective des bénédictions pour le peuple d'Israël.
Mais
pas seulement pour le peuple d'Israël, ça serait aussi pour toutes les nations.
Au verset 3,
on va lire le verset
3.
Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un?
Qui
est cette voix qui crie dans le désert? C'est
Jean-Baptiste.
Au verset
6,
une autre voix. Une voix dit, proclame un message. Alors, Dieu dit à Esaïe, proclame ce message. Et Esaïe répond, mais que dois-je proclamer?
Et
Dieu lui met des paroles dans sa bouche.
Et
la plus importante, c'est le verset
8.
On l'a dit,
c'est ça.
Et on voit, Esaïe doit annoncer que la parole de Dieu demeure éternellement.
Il
faut faire confiance aux promesses de Dieu. Il ne va pas changer tout à coup son programme. Et puis, il y a une quatrième voix qui se fait entendre. C'est Jérusalem qui doit annoncer avec force.
Au
verset
9,
on peut lire le verset 9. Alors, on voit que cette Jérusalem, ça représente le peuple de Dieu. Annonce une personne dont elle dit, voici votre Dieu.
Et
cette personne est décrite dans les versets 10 et 11.
Je ne sais pas si
Alors le peuple de Dieu annonce quel sera le caractère de cette personne.
Apa chisamba cha nzambi chijichamba chikala ni kajiri wo muntu ewo.
C'est un berger.
Bajibamba ne ni kale mulemi wa mikoko.
Verset 11, pareil, un berger, il s'occupera de son troupeau.
Apa mouvesu wa jikumiru jiwa ambane mulemi wa mikoko ewo na yukute belela chisumbu chende cha mikoko.
Le peuple annonce que ce berger sera puissant, mais aussi un homme très doux, plein de
tendresse.
Ça se trouve très beau ce début du chapitre
40.
Parce que Dieu annonce des consolations. Jean annonce ce Messie, le Messie.
Esaïe
encourage en disant, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Et
ensuite, il y a l'annonce de Jésus comme celui qui est le berger qui sauvera son peuple. Et ça introduit très bien cette série de chapitres jusqu'à la fin du livre. On voit un peu le plan de Dieu pour bénir son peuple. Et dans les derniers versets de ce chapitre
40,
à partir du verset 12, Dieu se présente comme un Dieu souverain. Et Esaïe présente ce texte sous forme de question. Par exemple, au verset 13 du chapitre
40,
il veut présenter un Dieu souverain en posant la question. Quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Qui peut instruire Dieu? Qui peut l'enseigner? Personne. C'est pas les nations. Comme au verset 15, il dit, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un
seau.
Pour bien montrer que ce n'est pas nous qui pouvons instruire Dieu. Au verset 18, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et dans le texte ici, c'est Dieu qui est supérieur aux idoles. Plus loin, il est posé la question, il faut que je retrouve le verset. Il y a plusieurs questions qui suivent. Mais il dit en particulier, n'avez-vous pas réfléchi aux fondations de la terre? Qu'est-ce qui a établi cette terre?
Et
on voit qu'on peut répondre seulement que Dieu est supérieur à tous les habitants de la terre. Et Plus loin, il y a cette question au verset 25. Il dit, mais à qui voulez-vous comparer le Dieu d'éternité? Et ensuite, Esaïe parle de la création. Pour montrer que ce Dieu d'éternité est le créateur. Donc Dieu se présente comme le Dieu souverain qui tient tout dans sa main. Et maintenant, on va considérer les chapitres 40 à 48. Qui concerne une partie qui va se passer après le départ d'Esaïe. C'est le retour de l'exil à
Babylone.
Et quand Esaïe écrit ce chapitre, le royaume de Juda qui a duré plus longtemps, n'a pas encore été exilé. Mais Esaïe voit que le peuple serait exilé. Et en fait, il était exilé environ
70
ans. Esaïe voit déjà que des Juifs fidèles vont revenir à
Jérusalem.
Et la volonté de Dieu, c'est de bénir son peuple. D'être aussi glorifié par ce peuple. On va au chapitre
43,
au verset
21.
Quel était le désir de Dieu avec ce peuple? Donc Dieu se réjouit de ce que le... du désir que le peuple qu'il a choisi glorifie son nom. Parce que ce peuple devait être comme un exemple qui devait enseigner les nations. Et le peuple avait été infidèle, il a été déporté. Mais on voit que si nous restons infidèles, Dieu reste Dieu. Demeure fidèle. Dieu veut toujours, recherche toujours le bien des croyants. Et il a fallu que ce peuple passe par toutes ces circonstances pour que le peuple comprenne qu'il est vraiment aimé de Dieu. Alors dans ce chapitre 40 à 48, il y a plusieurs thèmes qui s'entremêlent. Et c'est difficile de donner une structure à ce chapitre. Mais il y a des paroles de consolation, d'encouragement, d'exhortation. Alors je vais vous en lire quelques-uns, je ne donne que la référence. C'est toutes des paroles d'encouragement.
Mais à vous sambie, à ton banche, au père de ma paix,
il donne de la force à celui qui est fatigué.
Ben, soit ma vie habituée, mais je vais les balayer, je vais le boucler, le coucher, où je me fouille.
Et puis 41 verset 10.
Bon, chaque doigt ma commis, en aïe, le moins 20 soit dit commis.
Il y a d'autres références, mais c'est n'ayez pas peur.
Faut dire qu'il m'ouait, le fondo.
Ne promène pas des regards inquiets. Un encouragement pour les personnes âgées. Non, Dieu dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'au cheveu blanc, je vous soutiendrai. Alors c'est des paroles qu'on aime bien répéter ici pour nous, les croyants.
Mais
parce que le cœur de Dieu pour ce peuple qui revenait. C'est le même cœur qu'il a pour nous aujourd'hui. Dieu se présente aussi comme un Dieu souverain dans toute sa majesté. Par exemple, il dit, mais je suis le Dieu d'éternité.
Au chapitre
C'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui a créé. C'est moi qui ai créé l'homme qui peuple la terre.
Il
n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. On peut lire ensemble le chapitre. C'est intéressant parce que Dieu dit, mais je connais les choses à l'avance. Je t'ai révélé depuis longtemps des événements. Afin que tu ne dises pas à la fin, c'est mon idole qui les a
faits.
Et pour nous, c'est
encore.
Pour nos chrétiens aujourd'hui, c'est un grand encouragement. Parce qu'on a eu, on a vu que Esaïe a prophétisé sur le Messie, sur Jean-Baptiste.
Et
il y a peut-être eu plus de 600 ans entre ce qu'Esaïe a écrit et quand ça s'est passé. Donc Dieu est à son plan, c'est lui seul qui le sait. Hier, on a rapidement parlé du peuple d'Israël qui est revenu dans son pays.
Qui
est redevenu une nation en
1948.
Qui a fait reverdir le désert. Et c'est des choses qu'on vit maintenant. Une prophétie qui se réalise de notre temps. Mais Esaïe va faire des prophéties sur les temps futurs. Alors dans ce chapitre
40 à 48,
il parle aussi des idoles. Des fois, il fait des descriptions assez amusantes de ces idoles qui... On prend du bois ou on prend du métal. Et puis, il décrit l'inutilité de ces idoles. Et même, il va montrer que le roi de Babylone, qui se croyait tellement puissant, que c'était dû à la puissance de ces idoles. En une nuit, il a été réduit à néant. Il y a quelque chose de très intéressant aussi. Parce que Dieu parle encore d'un autre serviteur. Un serviteur imparfait qui s'appelle Cyrus. Qui sera un libérateur pour le peuple d'Israël. C'est décrit dans le chapitre 45. Et on peut lire les versets, je regarde. D'abord, dans le chapitre 44, le dernier verset, 28. C'est étonnant parce que c'est très précis, on dit même son nom. Et ce souverain perse est désigné près de 180 ans à l'avance. C'est celui qui permettra au peuple d'Israël déporté à Babylone de revenir à Jérusalem. Et ce chapitre parle encore de Cyrus
verset 13.
On peut lire ensemble. On voit que c'est très précis, hein.
Attends, bah j'ai dit que bah c'est un boulet le menemene bijadika.
Il va reconstruire la ville.
Bah ne ouna yokui bakulula chimenga.
Et faire revenir tous ces déportés, ces exilés.
Ne ouvi nga jabon se bakaji baye na bomufika.
Donc ça s'est passé à peu près 180 ans plus tard.
Ya ka yokwenza ko kunyima kwa bijumulu kamna ko mwanda mukulu yesha yomana kwa mbabwa lwepo.
Et on peut lire cet édit de Cyrus. À la fin du dans le dernier chapitre du deuxième livre des chroniques. Alors ce livre des chroniques décrit la vie un peu de tous les rois qui sont succédés en Israël. Jusqu'au dernier qui s'appelait Sédécias.
Oh, le monde qui est du monde, moi,
ensuite, il y a eu la déportation.
Et
il y a encore ce paragraphe qui a été ajouté à ce livre des chroniques. Je lis simplement, la première année du règne de Cyrus sur la Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Parce que Jérémie avait aussi prédit l'exil. Et voilà ce que décide Cyrus. Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre.
Et
il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem. Qui parmi vous fait partie de son peuple?
Eh
bien, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui.
Et
qu'il monte à Jérusalem, qu'il retourne à Jérusalem. Effectivement, des Juifs sont retournés à Jérusalem. Avec l'encouragement de ce Cyrus qui voyait cela comme son rôle de renvoyer ce peuple alors d'où il venait. Dans ce chapitre 44-48, Dieu se présente comme aussi un Dieu sauveur. Le peuple avait besoin d'être libéré de Babylone, mais surtout d'être libéré intérieurement. Ce peuple avait besoin du pardon de Dieu. Et déjà, Dieu se présente comme un sauveur. Jésus n'était pas venu encore sur la terre. Mais Dieu avait déjà son plan. Par exemple, chapitre
43,
verset
3.
Il dit, en effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et dans ces chapitres, on peut voir plusieurs autres versets qui disent que l'Éternel est le Sauveur. Maintenant, on va se tourner vers le chapitre 42. où il est parlé d'un serviteur. D'un serviteur qui va opérer une délivrance et qui sera une lumière pour tous les peuples. On va lire ensemble les versets 1 à 4 du chapitre
42.
Oui, à qui est-ce que ça vous fait penser? Ces versets sont cités dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu,
chapitre
20. On ne va pas les lire. C'est le même texte. Mais on voit que ces versets annoncent Jésus des évangiles. Jésus, notre sauveur, qui va de lieu en lieu faisant du bien. Et puis il est dit aussi que ce serviteur sera la lumière des nations. Qu'il ouvrira les yeux des aveugles. Donc il sera puissant. Mais aussi plein de compassion. Et ce passage constitue le premier passage de ce qu'on appelle en général les quatre champs du serviteur. Et les autres champs se trouvent dans les chapitres 49 à
53.
Et c'est dans ce chapitre qu'on verra trois chants de ce serviteur. qui sera aussi le libérateur pour le peuple. Alors le premier chant, on l'a vu dans le chapitre
42.
Le deuxième chant, c'est dans le chapitre 49. Chaque fois, ça nous fait parler du Seigneur Jésus. Sous un aspect ou un autre. Alors, c'est dans le chapitre 49, les versets 1 à 6, ou 1 à 13.
Donc,
on va pas tout lire, vous pouvez le faire à la maison. Mais on va lire certains versets qui nous montrent que le serviteur montre ses sentiments. Son service n'est pas facile. Mais il ne faut pas qu'il se décourage.
Ésaïe
49, verset 4. Et puis je lis à la fin du verset 6 aussi. Dieu dit ce serviteur. À ce serviteur, je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'au bout de la terre. On voit que le salut apporté par
Jésus-Christ
s'appliquera à toutes les nations jusqu'au bout de la terre. Donc les conséquences du ministère de ce serviteur s'étend à toutes les nations. C'est décrit dans les versets qui suivent. Il y a un troisième chant qui est dans le chapitre, qu'on voit dans le chapitre 50, entre les versets 4 et
11.
On va lire simplement du chapitre, chapitre 50, verset 4 à 6. Juste, je vais faire un petit commentaire. Il est plusieurs fois parlé de Jésus dans ces différents chants. Chaque fois, ça devient de plus en plus précis. Au début, c'est peut-être un peu flou. Dans le sens qu'on peut prendre des choses pour nous. Mais qui s'applique aussi à Jésus. Mais ici, on verra que depuis, en avançant dans ces chants, on voit que ces chants peuvent s'appliquer qu'au Seigneur Jésus. Maintenant, on lit chapitre 50, versets 4 à 6.
Tujimu chapitre 50 wa Yeshayi, verse mwina itoni kujimu sambombo.
Vous avez remarqué qu'est-ce qui s'applique spécialement au Seigneur Jésus?
Comme
serviteur de l'Éternel. Dans le verset 6, on voit qu'il a présenté son doigt à ceux qui le battaient. Le serviteur dit, je n'ai pas caché mon visage au crachat.
Je n'ai
pas caché mon visage aux insultes. On est à l'époque de
Pâques.
Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On peut dire que c'est seulement le Seigneur Jésus qui a pu supporter ça.
Et là
on voit ce serviteur spécialement qui est insulté, dont on se
moque. Mais
comment ce serviteur peut persévérer? Quel est le secret du serviteur pour rester fidèle?
Eh
bien, son secret, c'est écouter Dieu. On a lu au début, matin après matin, Dieu réveille mon oreille pour que j'écoute. Pour que j'écoute comme font les disciples. Et dans les chapitres
51 et 52,
on voit qu'il y a des promesses et des délivrances. Et aussi des appels à écouter. À écouter comme ce serviteur de l'Éternel. Parce que c'est son secret pour rester fidèle. Alors dans le chapitre 51, on voit ces expressions.
Verset 1,
écoutez-moi.
Verset
4, prêtez-moi
l'oreille.
Verset 7, écoutez-moi. On appelle à être à l'écoute de Dieu. C'est ça qui peut nous encourager dans notre vie de foi. Et maintenant, on va passer au quatrième chant. Certainement que celui-ci, vous le connaissez beaucoup mieux. C'est le chapitre 52, verset
13.
Jusqu'au chapitre 53, verset
12.
Et là, c'est de nouveau le serviteur de l'Éternel. Mais celui qui va s'offrir en sacrifice. On lit ensemble les versets que nous connaissons, mais ça vaut la peine de les relire.
Chapitre 53, les
versets 4 et 5. Et ça, ça ne peut s'appliquer qu'au... C'est une prophétie, mais elle ne peut s'appliquer qu'au Seigneur Jésus.
Et si c'est un prophète, a dit qu'il y a pour combien d'années, nous, nous, nous,
la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est lui qui a dû payer pour nos péchés. C'est lui seul qui a pu accomplir cette œuvre. Cette œuvre qui s'est accomplie à la croix. Et les conséquences de ce sacrifice sont décrites dans les chapitres suivants,
54-55.
Israël jouira d'une prospérité future. Et il y a des beaux versets qu'on aime à s'approprier. Et c'est Dieu qui dit à son peuple au chapitre 54, verset 8. Dieu dit, mais j'ai un amour éternel. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Et au verset 10, il dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. C'est des paroles qu'on peut apprendre par cœur. En français, on a aussi des cantiques qui reprennent ces versets. Et on peut s'en souvenir dans certaines circonstances. Et ça nous encourage. Il y aura certainement beaucoup d'autres. D'autres versets à lire. Mais c'est là où il peut faire cet appel, où on peut faire cet appel, Ésaïe 55, verset
1.
Il dit, venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau.
Il
dit cette parole un peu qui nous surprend. Venez acheter, manger acheter sans argent, sans rien payer. C'est vrai que le salut de Dieu, il faut, j'allais dire, l'acheter, c'est-à-dire, il faut l'accepter.
Il
va nous donner cette vie en abondance. Sans argent, sans rien payer. Et ce chapitre 55,
c'est un...
où la joie du salut et la vie en abondance sont exposées. Je passe sur le chapitre 56 et
57,
qui sont plutôt des reproches à des chefs du peuple qui n'ont pas du tout l'esprit de berger. Donc c'est plutôt des reproches aux idolâtres maintenant, les chapitres 58 à
66.
Ces derniers chapitres du livre d'Ésaïe, on peut lire la gloire future. La gloire future de Jérusalem. On verra qu'il y a plusieurs parallèles entre cette gloire de la Jérusalem future. On voit que ces prophéties vont jusqu'à la fin des temps. Et puis elle recouvre en partie les prophéties qu'a eu l'apôtre Jean quand il a écrit l'Apocalypse.
Donc
on voit une parfaite unité entre dans toute la parole de Dieu. Il y a une belle unité.
Et
ça, c'est déjà révélé dans l'Ancien Testament. Alors, je vais passer en revue rapidement ces chapitres pour m'arrêter sur un ou deux aspects de cette gloire future. Alors, le chapitre 58 parle d'un sujet qui nous préoccupe aussi des fois. C'est le jeûne, le vrai jeûne. Donc le jeûne, quand on se prive de nourriture. Alors, des fois dans le monde chrétien, on pense que parce que je jeûne, je pourrais faire pression sur Dieu pour qu'il réponde à mes prières. C'est un peu comme faire grève, on ne mange plus, on fait la grève. Comme dans une fabrique où des ouvriers font la grève. Alors pour faire pression sur le patron.
Mais
si Dieu dit la graine, le jeûne dont je parle, c'est pas du tout ça. On peut voir comment Dieu voit le jeûne.
Le
chapitre
58,
la fin du verset 9, et on va lire jusqu'au verset 10. Vous savez que du temps de Jésus, par exemple, les pharisiens aimaient bien jeûner. Il fallait que tout le monde remarque qu'ils
jeûnaient.
Ils montraient des figures tristes. Mais ils voulaient attirer l'attention sur eux. Ils connaissaient certainement toutes les écritures aussi, les pharisiens. Et s'ils avaient vraiment compris ce qu'était le jeûne,
ils
se seraient conduits autrement. Et comment est-ce que Dieu voit le jeûne dans ce chapitre? C'est pas, comment dire, si je sais que dans ma vie, tous mes biens appartiennent à Dieu,
si
je reçois ce dont je jouis, c'est, je le reçois de Dieu, je suis privilégié. Alors je serai prêt à me priver de nourriture, par exemple. Ça
ne
veut pas dire que je dois manger plus rien. Mais tout ce que j'ai en surplus, je peux aussi le partager à d'autres. Alors ce n'est pas tout prendre des richesses, en avoir toujours plus pour moi. Mais si Dieu me donne assez de biens matériels, par exemple, je peux l'utiliser pour le, c'est-à-dire le répartir parmi ceux qui ont plus de besoin. Au chapitre
60,
le chapitre 60 parle de la gloire de la future Jérusalem. On peut lire chapitre 60, le verset
2.
On voit que Esaïe dit que sur Jérusalem, une gloire apparaîtra.
Et
c'est là que je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Apocalypse. 21. Qui décrit avec plus de détails ce que c'est que cette nouvelle Jérusalem.
Le
chapitre 21, verset
9 à 27.
Et il y a un verset qui rappelle un peu ce qu'Esaïe a dit.
Verset 11.
Elle rayonnait, cette Jérusalem rayonnait de la gloire de Dieu. Et qui peut entrer dans cette ville? C'est dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset
27.
On peut le lire ensemble. Qui entrera seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau. Et l'agneau nous parle de sacrifice. On a vu que dans Ésaïe 53, le serviteur de l'Éternel était ce sacrifice.
Alors
c'est aussi un message qui s'adresse à nous. Parce que nous croyons, on aura le droit d'entrer dans cette nouvelle Jérusalem. C'est un lieu où il y aura la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Jésus, notre Sauveur, sera là au milieu. Et Esaïe a déjà vu cette gloire future. Il
a
aussi parlé au chapitre 61. Que le serviteur de l'Éternel apportera beaucoup de joie.
Chapitre 61,
premier verset. Voilà, le serviteur de l'Éternel aura de bonnes nouvelles à apporter. On voit que cette section, cette troisième partie du livre d'Ésaïe est tellement différente de la première. Il y avait beaucoup de jugements pour tous ceux qui se sont détournés de Dieu. Mais maintenant, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il y a une vie éternelle en abondance. Donc il est parlé de Jérusalem aussi dans le chapitre
62.
En disant que Dieu se réjouira dans son peuple.
Et
ce n'est pas simplement le peuple d'Israël.
Mais
c'est pour tous ceux, il se réjouira d'avoir tous ceux que son fils Jésus lui a apporter.
Il y
a encore une chose que j'aimerais souligner dans le chapitre 63. On voit que le peuple de Dieu pourra adresser des prières à son Père. Ou plutôt pourra adresser des prières à l'Éternel, mais en l'appelant son Père. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de citations dans l'Ancien Testament où on le voit. C'est notre privilège de croyant aujourd'hui d'appeler Dieu Abba Père. Mais là, on entrevoit déjà que le peuple peut s'adresser à Dieu. En lui disant, par exemple, chapitre 63, verset
16.
Dans cette prière, il dit, cependant, c'est toi qui es notre Père. Et c'est cité plusieurs fois dans ce chapitre, par exemple, chapitre
64,
verset
7.
Le peuple répète, cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. On voit cette nouvelle relation que le peuple d'Israël aura avec Dieu.
Mais
celle que dont nous jouissons déjà maintenant, on appelle Dieu notre Père. Il y a une relation très proche. Les derniers chapitres font parle aussi d'une nouvelle création. Parle de nouveau de la gloire future de Jérusalem. À nouveau, ce qui nous est dit là, on peut le comparer avec Apocalypse 21. Aussi pour résumer un peu tous ces derniers chapitres du livre d'Ésaïe. La gloire est un des mots-clés de tous ces chapitres.
Et
la première partie, où c'était l'orgueil qui résumait un peu tout. Mais là, c'est une gloire qui est liée à la présence personnelle de Dieu. Une gloire majestueuse qui conduit à l'adoration, au respect. Je cite une ou deux choses que j'ai relevées. C'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. La gloire de l'Éternel se lève. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Et pour terminer cette présentation sur Ésaïe, je vais lire le verset 22 du dernier chapitre 68, verset 22.
Mwana tu bale 20 wa makumi abidi mwibiji wa chapitre wa makumi asambo mwani sambo.
C'est une nouvelle création. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. Cela nous amène vraiment en présence de Dieu et nous amène à l'adorer. En pensant à l'avenir éternel qui nous attend. Je propose qu'on termine par la prière.
Dieu
Père, merci pour ce livre d'Ésaïe. Merci de nous avoir donné ce livre qui nous éclaire sur notre espérance. Merci de nous donner cette espérance future. Et nous savons que tout vient de toi. C'est toi qui as préparé ce serviteur, ce Messie. C'est toi qui as envoyé le Seigneur Jésus sur la terre pour faire cette œuvre à la croix. C'est toi qui as voulu le pardon, c'est toi qui as voulu cette réconciliation. Et merci pour cette espérance qui nous encourage dans notre foi. Merci de savoir que tu nous aimes en toutes circonstances. Et merci de savoir si nous nous sommes éloignés de toi, tu es prêt à nous recevoir quand on vient vers toi. Oui, que chacun soit encouragé aujourd'hui, chacun ici dans cette salle soit encouragé par cette espérance, par tes promesses. Par tes promesses que, et tu nous montres que tes promesses, tu les tiens. Tu n'es pas un Dieu qui change d'avis, tu n'es pas un Dieu qui revient en arrière. Mais c'est un Dieu qui est toujours prêt à nous accepter, qui est prêt à pardonner. Oui, nous voulons te dire merci et merci de pouvoir t'appeler notre Père. Et nous t'adorons, nous disons que au-dessus de tout, c'est toi qui es le Créateur. Et nous sommes tes créatures, mais tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Et là aussi, nous voulons te bénir. Amen.
Amen.
Amen. Ce soir.